Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré.
Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière.
Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire très cinéma de cette émission aujourd'hui, pas moins de 3 coups de cœur ciné qui vont vous être proposés. Le premier dans un instant avec les têtes givrées, Stéphane Cazès, Clovis Cornillac et Bettina Flender seront nos invités pour nous parler de ce film qui sort mercredi au cinéma. En fin d'émission, on parlera d'Alibi 2, et oui, le film de Philippe Lachaud. Toute l'équipe sera là, Tarek Boudali, Julien Arruti, Philippe Lachaud et Elodie Fontan termineront l'émission avec nous. On parlera également du très beau film de Rachid Ami, Pour la France, avec Karim Leclou également qui sera notre invité. Gilles Alma viendra également nous rendre une visite pour nous parler de L'Abîme qui sera diffusé sur France 2 dès mercredi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui encore une fois dans Chut, on écoute la télé.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné s'appelle Les Têtes Givrées. Ça sort le 8 février au cinéma. Un rendez-vous à ne pas manquer. Un film de Stéphane Cazes qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Et qui est pas venu tout seul. Il est venu avec une des jeunes comédiennes de son casting, Bettina Flender, qui est avec nous. Bonjour Bettina.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis un habitué de l'émission qu'on présente plus tellement on est heureux de l'avoir à chaque fois. Il est là, Clovis Cornillac. Bonjour.
Bonjour à tous.
Bon Stéphane, en tout cas on va planter un peu le décor de ces têtes givrées. J'ai beaucoup aimé le film parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent, plein d'émotions. Ces jeunes, ce professeur qui revient un peu sur ces terres pour sauver du moins cette classe de SECPA qui se retrouve sans professeur. Et puis il y a un message, moi j'appelle ça vraiment une comédie sociétale qui est écologique en quelque sorte, avec un beau message. D'où est venue l'idée Stéphane déjà?
Alors l'idée est venue de plein d'envies que j'avais. J'avais envie de parler du métier d'enseignant, de rappeler que pour moi c'est le plus beau métier du monde. Et j'avais envie aussi de filmer les glaciers, que je trouve incroyable, extraordinaire et que peu de gens connaissent finalement le fonctionnement des glaciers, voilà. Donc j'avais envie aussi de faire une comédie et donc de faire un film sur tout ça. Et de là est né ce film.
Alors c'est vrai qu'on n'a jamais vu les glaciers filmés de cette façon-là dans un film. En tout cas là c'est vraiment au plus proche. Comment on fait pour arriver à avoir des images comme ça? Et surtout quand ils sont tous descendus dedans en plus, j'imagine qu'il a fallu une équipe technique réduite quoi en plus. Hein.
Bah comment on fait? Bah on descend en rappel. Je crois qu'on n'a pas trop le choix. Et oui, on a trouvé des décors extraordinaires. On a tourné à l'intérieur de la mer de glace. Un glaciologue qui nous a trouvé ce décor. Donc on est descendu avec toute l'équipe en rappel et on a filmé les entrailles du glacier. Voilà, des images qu'on voit pas souvent et c'est à la fois somptueux parce que c'est grandiose, c'est immense et quand on regarde de près c'est aussi très beau parce qu'il y a des milliards de petites bulles qui ont plusieurs centaines de milliers d'années qu'on voit à travers la glace et c'est vraiment magnifique quoi. C'est important de voir ces images parce qu'elles sont en France on a ces glaciers là, donc voilà, faut tout faire pour qu'ils ne disparaissent pas et voilà, donc ce sentiment d'être émerveillé par la nature est très important pour moi.
Les images sont à couper le souffle et d'autant plus sur un grand écran. Là, on est vraiment sur un film fait pour le cinéma et à voir vraiment sur grand écran. On va parler de Alain, donc qui revient dans cette ville au pied du Mont Blanc, hein, quasiment près de Chamonix, et qui va venir reprendre cette classe de SECPA qui se retrouve sans professeur. Il est profondément optimiste, il est profondément volontaire malgré des blessures du passé qu'on découvrira en allant voir le film.
Oui, oui, c'est un chouette gars qui est manifestement voilà, coupé un peu avec la vie et qui va revenir. Alors c'est vraiment le début du film, donc il n'y a pas de spoilage là-dedans, mais c'est vrai que l'éducation nationale manque de profs et ils font appel de temps en temps à des gens qui sont pas profs, puisque lui était plutôt, c'était un entraîneur de ski, mais il s'avère que il lui propose le job de prendre cette classe de SECPA. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est au-delà du fait qu'il va se créer entre ses élèves et lui, je pense une vraie complicité humaine. Il arrive aussi à enseigner d'une certaine manière qui est inspirée d'un vrai gars que Stéphane m'a fait rencontrer, qui s'appelle Vincent Fayet et qui a mis le rapport prof-élève à un autre endroit que du classique habituel, c'est-à-dire du prof sur une estrade face à son public qui doit apprendre et se taire. Il travaille autrement, il déstructure la classe, il fait travailler les élèves par deux, par trois, sur des projets, sur des choses concrètes. Et du coup, il y a une envie d'apprendre, un plaisir d'apprendre. Ça n'empêche pas le respect, ça n'empêche pas... Donc j'ai rencontré cet homme-là, j'ai rencontré sa classe. Tu sens qu'il y a un vrai rapport de respect du professeur. Donc c'est pas du tout le chaos, c'est pas ce qu'on pourrait imaginer du tout. Mais qu'en même temps, il y a un vrai plaisir à apprendre. Et en fait, ça, on le voit dans le film. Parce que Stéphane voulait aussi parler d'éducation, la manière dont on donne aussi aux gamins l'idée, par exemple, de croire en ses rêves. C'est une des thématiques du film qui est très importante, et de redonner confiance à des gamins qui sont un peu en perte de repères et de croire en eux-mêmes, ça fait partie de l'éducation. C'est un chouette gars, ce Alain. Alors peut-être parce qu'il s'appelle Alain.
Je pense, hein. Il doit y avoir un rapport, c'est pas possible.
Voilà. En tout cas, il a quelque chose que moi j'aime beaucoup. Tous les personnages dans le film et toute cette jeunesse, tous les rôles des jeunes sont formidables parce qu'ils sont très distincts les uns des autres. Il y a un travail sur le scénario qui a été fait manifestement pour justement pas se servir des personnages, mais que les personnages servent le récit. Et ça, c'est vachement agréable parce qu'ils sont incarnés. Et du coup, on suit tous ces personnages-là, toute leur évolution à chacun. Et c'est en ça où, au-delà des images qui sont très belles, de l'envie de cinéma de Stéphane, c'est très cohérent. Rien n'est gratuit. Et les images accompagnent les personnages. Donc c'est très réussi de ce point de vue.
Bettina, tu vas être la représentante de toute cette classe d'élèves. Le projet, lors d'une sortie scolaire initiée par Alain dans le film, va vous amener à avoir cette idée de sauver un glacier et de trouver des bâches un peu partout en France pour essayer justement de mener votre projet à bien. Quand toi t'es arrivé dans ce rôle-là, que tu as vu tous ces décors, tous ces paysages, tout ce glacier, qu'est-ce que ça t'a fait à toi personnellement, Bettina ?
Du coup, oui, ça m'a tout de suite émerveillée de voir ce type de décor-là, de découvrir la montagne de cette façon-là, parce que c'est vrai que en tant que touriste, c'est pas tous les jours que tu vas dans un glacier. Moi, même au niveau de mon personnage, j'ai tout de suite eu un gros coup de cœur sur le personnage d'Inès, par sa fragilité qu'elle essaye un peu de cacher avec, vous le découvrirez dans le film, mais son style très extravagant. Donc voilà, un projet génial. Avec en plus des formidables acteurs qui m'ont accompagné dans ce groupe de jeunes, et c'est vrai qu'on a tous réussi à trouver une place différente. Tout le monde a une personnalité très distincte, notamment déjà dans les acteurs et en plus dans les rôles. Tous les personnages prennent confiance en eux petit à petit, et c'est ça qui est beau, de les voir évoluer. En plus, avec Alain qui évolue aussi grâce aux élèves, c'est vraiment une relation de donnant-donnant.
Ça a permis une prise de conscience à toi aussi, ou tu l'avais déjà, cette conscience un peu écologique, ou ça t'a fait un peu un électrochoc d'aller tourner justement dans tous ces décors fragiles aujourd'hui?
Je pense que notre génération est quand même assez écolo et assez informée sur le futur, parce que ça reste quand même notre futur principalement. Mais c'est vrai que oui, ça m'a fait un électrochoc, parce que j'étais vraiment face aux dégâts que l'homme a fait de cette nature, de la beauté des glaciers, et ça m'a vraiment mis face à la réalité, ce que je n'avais jamais vraiment vu avant. Je m'étais un petit peu renseignée, je me prétendais écolo, mais jamais j'avais eu une telle prise de conscience, je dirais.
Alors, on a une de nos têtes givrées, du coup, avec nous. Stéphane Clovis va revenir dans un instant. On va écouter la bande-annonce. Le film sort le 8 février au cinéma. Et on revient juste après.
C'est quoi cette sortie scolaire qui claque le sol, là ?
Je commence à râler dès maintenant, on n'est pas rendu, hein.
Monsieur, j'en peux plus, là.
Sur deux doigts de la crise tachycardiaque.
Tachycardiaque.
Monsieur, c'est vrai que le glacier va disparaître.
Si personne ne fait rien...
Oui.
Tu m'as parlé d'une balade dans la montagne, pas d'une descente dans un trou de 15 mètres. J'avais l'air ridicule face aux parents.
Débo, elle a une idée pour empêcher le glacier de fondre.
Mettre trois bâches sur un glacier, ça te fait kiffer, ça?
Faut qu'on se bouge alors, hein. Moi je suis à fond, vous êtes chez vous.
N'est pas des Gandhi ou des Greta, je sais pas quoi.
Qu'est-ce que t'en sais?
Allez, de retour, notre spécial des têtes givrées. Le film sort le 8 février au cinéma. Bettina Flender, Stéphane Caz et Clovis Cornillac sont avec nous. La question que j'ai envie de vous poser aussi, quelle restera le plus beau souvenir de ce tournage? Même si Clovis, toi t'as déjà tourné Belle et Sébastien à la montagne, c'est peut-être pas la montagne qui restera le principal atout, mais peut-être cette rencontre avec tous ces jeunes aussi.
J'ai toujours du mal moi, à extraire quelque chose d'une aventure, parce que c'est global. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est un tournage à l'image de Stéphane, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup en ça et j'ai pratiquement toujours vérifié ça, le réalisateur, la réalisatrice qui donne le là à une aventure. Stéphane étant quelqu'un d'extrêmement empathique et extrêmement en même temps passionné et nourri de son projet, que du coup l'aventure a été absolument douce sans jamais rien lâcher. Un tournage humain, quoi.
C'est chouette, Stéphane. Après avoir entendu tous ces beaux compliments, justement, avoir quelqu'un comme Clovis qu'on connaît bien. Parce que quand il joue un rôle, pour le connaître très bien, il s'y engage, il y va à fond. C'est un bonheur d'avoir un comédien comme ça.
Ah bah oui.
Ouais, c'est inespéré, presque.
Non, mais c'est un rêve d'enfance aussi que je réalise d'une certaine manière. Et c'est incroyable tout ce que Clovis a apporté. Enfin là, je pourrais, tout ce qu'il dit, bon, je pourrais lui retourner aussi, parce que l'ambiance sur un plateau, le comédien principal l'impacte aussi fortement. Et il était dans cette démarche très très généreux. Ce qui était très important, c'est il y a son personnage. Il a donné corps à son personnage. Les spectateurs qui verront le film verront qu'il est vraiment extraordinaire. Et même au-delà, tous les jeunes s'y jouent aussi bien. C'est aussi grâce à Clovis qui était généreux avec eux, qui leur faisait toujours la réplique, même quand il est hors champ, qui était patient, qui les aidait. Et donc,
tout le monde s'est porté vers le haut.
Ouais, c'est ça.
Sans faire de jeu de mots.
Mais c'est ça, et c'est un peu le propos du film, c'est que tout le monde s'enrichisse les uns les autres, quoi. Et c'est que dans un groupe, si on additionne les compétences de tout le monde, mais on fait des choses extraordinaires. Par contre, dans un groupe, si on est tout le temps à se casser les uns les autres, bah là, il y a une spirale de l'échec qui nous enfonce un peu tous vers le bas. Et donc, c'est d'essayer d'inverser cette spirale et d'arriver à faire des choses qui nous dépassent. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait avec ce tournage. On a même réussi à faire un tournage éco-responsable. On a fait des choses extraordinaires quand même. On était à 200 personnes, à 3800 mètres d'altitude. C'était des choses que je pensais utopistes, en fait, quand j'avais commencé à écrire ce projet avec la co-scénariste Isabelle Fontaine. Et voilà, on l'a fait. Donc grâce à la volonté collective de gens qui se tirent mutuellement vers le haut, on arrive à faire des choses qui nous dépassent. Et c'est un peu une des morales du film, c'est que si on arrivait tous à rentrer dans cette spirale positive, on arriverait à faire des miracles et peut-être à sauver les glaciers.
Aller au bout de ses rêves, c'est vraiment le message du film. Bettina, est-ce que toi t'as un moment particulier? Est-ce que t'as pu garder un de tes costumes en souvenir? Parce qu'on peut dire que il y a de la couleur chez Inès, hein.
Ah oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de couleurs. Oui, j'ai pu garder quelques costumes et comme ça, j'ai toujours une part d'Inès avec moi. Oui, le message du film, c'est d'aller au bout de ses rêves. Je pense que ça prône aussi que la différence est une force, parce que tous ces élèves sont quand même assez différents du moule qu'on essaye d'imposer dans le milieu scolaire. Et voilà, et je suis très contente d'avoir interprété Inès et d'avoir pu montrer que cet aspect artistique de sa personnalité peut être utilisé au profit d'un projet et au profit des études.
En tout cas, il y a un très beau message. Moi, j'ai eu la chance en plus de le voir entouré de 300 lycéens autour de moi. Et quand on a senti effectivement que le message passait bien, voilà, je pense que c'est la plus belle récompense que vous pouviez avoir lors de la projection, par exemple, que vous avez vécu il y a quelques jours à l'Alpe d'Huez, en tout cas au festival. Merci infiniment à tous les trois d'être venus. On vous dit à très très bientôt, et donc le 8 février, on ne manque pas les têtes givrées au cinéma. Merci Clovis, merci Stéphane et merci Bettina.
Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
Va chez un glacier.
Ah, tu te fous de moi là.
Elle est d'une partout.
Tu pourrais pas leur faire faire un simple exposé sur le réchauffement climatique? Avec un petit diapo comme tout le monde.
T'as vu le monde qu'on est en train de leur laisser, là? Je veux que vous soyez une équipe.
Oh, putain de terre! On les foutra en l'air!
Vous arrêtez de jouer avec nos enfants.
On s'est donné à fond et on pourra même pas poser une vache.
Vous voulez vous battre pour ce glacier, oui ou non?
Les grands projets écolo, tout ça, c'est fini.
Tu voulais qu'ils bombent le torse, non?
Regardez bien, parce que tu les feras plus.
Si nous, on est incapable de faire bouger toute une vallée, de quoi vous, vous serez capable?
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute
ma
la télé.
Mère était souvent ma grand-mère, souvent quand ça tournait mal. À 7 ans déjà, elle travaillait. Rappelle-moi, tu te plains de quoi? Vois à travers la vie, te regarde pas. Être en vie, c'est déjà ça. Ça veut pas dire croire en soi. Dès la naissance, on a pleuré. Mon oncle coupe la parole pour faire une blague, ou bien pour me dire quel oiseau passe, qu'il pourra toujours nourrir ceux d'en face, quand il y aura plus rien dans les grandes surfaces. Vois à travers la vie, te regarde pas. Être en vie, c'est déjà ça. Ça veut pas dire qu'on y croit. Ça veut pas dire qu'on a changé. Je ne sais encore où je vais, ce que réserve le destin, mais je sais déjà d'où je viens. Vu d'ici, ça fait loin. Je ne sais encore où je vais, ce que révélera l'histoire, mais je sais déjà d'où je viens. Pas d'arrivée sans départ. Mon grand-père de langue, il en parlait quatre. Capturé dans les camps, on bavarde. Il nous chantait en breton à quatre crânes. Mais la guerre, ça, on n'en parlait pas. Surtout dans la vie, te regarde pas. Regarde le passé derrière toi. Se rappeler qu'on y croit, c'est d'abord ne jamais changer. Je ne sais encore où je vais, ce que réserve le destin, mais je sais déjà d'où je viens. Vu d'ici, ça fait loin. Je ne sais encore où je vais, ce que révélera l'histoire, mais je sais déjà d'où je viens. Pas d'arrivée sans départ.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à L'Abîme qui sera diffusé mercredi pour la première fois sur France 2 avec les deux premiers épisodes de cette série en 6 épisodes avec Gilles Alma qui est notre invité pour cette première. Gilles, bonjour, merci d'être avec nous.
Coucou Alain, toujours un plaisir, tu le sais.
Eh ben oui, eh mais dis donc, mais toi depuis le début de l'année, mais ça y va dur, hein. César Wagner, oh, premier des audiences chaque semaine, mais quel cadeau.
Ah ouais. Non, là c'est un grand cadeau du public. Merci à tous. Je suis refait, comme tu dirais. Hein.
Ah ben là, partie, ouais. Franchement, et puis à peine César Wagner terminé, qu'on te retrouve dans cette nouvelle série dans le rôle de Laurent Lacaze. Et on va y découvrir cette histoire assez incroyable de Elsa et Laurent. Ce couple modèle, amoureux, marié depuis 20 ans, qui sont les parents de Lucie, jouée par notre amie Marie Malia. Et pourtant, eh bien, un matin, Elsa ne rentre pas de son jogging habituel et disparaît sans laisser de traces. Alors évidemment, Laurent et sa fille vont tout faire pour tenter de la retrouver. Mais que s'est-il passé? Est-ce une disparition volontaire? Est-ce un meurtre? Est-ce une disparition inquiétante simplement? A-t-elle été enlevée? On ne sait pas, le mystère reste entier. Mais qu'est-ce qui t'a plu en premier, en tout cas, Gilles, dans ce rôle et dans cette histoire?
Écoute, voilà, tu vois, tu viens de pitcher en trois phrases et demie, et c'est ça la force d'un bon scénario, d'une belle histoire, c'est que voilà, on a tout de suite envie de savoir ce qui se passe. Chaque page lue, on a envie de tourner la page et de savoir ce qui se passe après. Et j'ai lu le scénario, c'est François Vell, le réalisateur, qui m'avait fait travailler déjà dans Maman à tort, qui m'envoie ce scénario, qui me dit tiens, lis ça, tu me dis ce que t'en penses. Et j'ai lu d'une traite, moi je prends beaucoup le TGV, donc j'ai lu tout d'une traite, je dis écoute, c'est extraordinaire, c'est vraiment une histoire, un polar vraiment génial. Voilà. Et mon personnage en prend plein la tête, et donc là je ne pouvais pas faire autrement que de dire oui très rapidement.
Et oui, parce qu'au fur et à mesure des épisodes, il va découvrir plein de choses, évidemment, ouais. Et qui va pas arranger la situation, non. Bien évidemment. Mais surtout, aussi, ce qui est chouette, c'est que la série montre tout plein de flashbacks. Donc, on voit le personnage de Sarah, évidemment, sur tout plein de choses pour permettre de comprendre au fur et à mesure, voilà, ce qui se passe. Donc, on revient régulièrement dans le passé au fur et à mesure de ces 6 épisodes. Hein.
Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non, parce qu'il faut nourrir. Il faut nourrir. Il faut comprendre dans quel état d'esprit on se trouve, notre histoire, chacun de notre côté, notre rencontre. Alors bon, je t'avouerai que me faire avoir 20 ou 25 ans avec la tronche que j'ai maintenant, c'est un peu compliqué. Mais bon, le chef op était fabuleux et les maquilleuses aussi. C'est construit. Puis ça part vraiment, vraiment très, très loin. C'est-à-dire que à aucun moment, quand vous regardez le premier épisode, vous pouvez avoir imaginé une once de ce qui peut se passer dans le 4, dans le 5 ou dans le 6, ou même dans le 2 et dans le 3. Donc, moi, en tant que comédien, personnage, Laurent Lacaze, il s'en prend toutes les 15 minutes, il y a une annonce incroyable. Voilà. Donc, toutes les 15 minutes, il y a un cliffhanger. Et alors, quand un épisode, c'est-à-dire c'est du 52, hein, donc quand un épisode se termine, on a toujours un cliffhanger qui fait que mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer après? C'est très très bien écrit et c'est finement joué, quoi.
Ouais, c'est vrai, très bien réalisé et également. Comment tu le définirais, toi, Laurent?
Eh ben Laurent, il est top. Tu l'as dit, c'est un mec bien, quoi. C'est ça qui est bien parce qu'on se projette, on se met à la place du personnage. Tout va bien dans sa vie, ça roule, il s'aime, la fille va bien, tout roule à Moustier-Sainte-Marie. Voilà, ils habitent Moustier, c'est un petit village magnifique. Je conseille à tout le monde d'aller en vacances là-bas, à côté des gorges du Verdon. Tout va bien, quoi. Et là, d'un seul coup, effectivement, sa femme disparaît. Bon, on retrouve quand même un petit peu de sang avec son médaillon. Voilà, après, on découvre un peu, sans spoiler, qu'il y a un mec qui est dans le coin, qui rôde autour d'elle, et elle va à l'hôtel avec lui. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui... voilà, et ce mec va bien. Et c'est pour ça qu'on me demande, est-ce que tu t'es préparé et tout? Ben non, je me suis pas préparé, parce que ce mec, bon, je vais bien dans ma vie, je suis un peu comme Laurent Lacaze. Donc, j'ai réagi en tant que Gilles Alma, quoi. Je jouais pas spécialement, j'ai réagi à ce qu'on me donnait. Et j'aurais réagi pareil si ça avait été moi dans ma vie, quoi.
La rencontre avec Sarah Mortensen, avait déjà joué avec Sarah?
Non, je connaissais pas
Sarah. C'était la première fois.
Voilà, c'est la première fois. C'est une actrice formidable. C'est une grande, grande, grande professionnelle. Mais c'est des gens, voilà, qui viennent un peu comme moi du flux du gros tournage. C'est-à-dire qu'on tourne toute la journée. Voilà, on commence à connaître. La caméra a plus de secret pour nous. Elle vient de Plus belle la vie. Moi, je viens de Nos chers voisins. On a énormément tourné tous les deux. On a fait beaucoup, beaucoup de minutage. Et ça fait quand même de l'expérience et c'est agréable de tourner avec des gens comme ça.
Et bien sûr, et puis pour un réalisateur, évidemment, vous êtes opérationnel très rapidement, vous avez le rythme, vous avez tout.
C'est ça.
Et ça, c'est chouette. Et Marie qui joue ta fille aussi, Marie Malia, pareil, elle vient de Plus belle aussi. Et évidemment, ouais. Ça laisse pas mal aussi de temps pour pouvoir aussi tourner moins vite, du coup, parce qu'il faut s'adapter aussi à ce rythme de tournage qui est quand même un peu plus lent que sur une quotidienne comme toi t'as pu connaître ou même Sarah a pu connaître, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement, bah quand on est en studio et voilà, les caméras, on sait où les mettre, ça va très 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 vite. On fait beaucoup de minutage par jour et là, bon, bah on est en extérieur, voilà, ça prend plus de temps et c'est bien, hein, c'est important de faire les choses correctement. Voilà. Alors, on n'est pas encore au cinéma, hein, on fait pas 2 minutes par jour. On était à plus 5 minutes par jour à peu près. Faut que les gens comprennent ça, que bon, c'est un entre-deux, quoi. Mais voilà, nous, ça nous permet de peut-être de nous concentrer un peu plus, même si moi j'ai pas besoin de me concentrer, je fais le con avant, je fais le con après, une fois que c'est coupé. Même quand je joue des trucs dramatiques, ça me fait du bien. Mais voilà, ouais, c'est une belle façon de travailler, on est bien. On était dans notre élément avec ça.
Bon, et puis attends, César Wagner continue, évidemment, vu le succès incroyable de la série avec ses 5 millions de téléspectateurs tout le long du mois de janvier. Et puis Sarah, évidemment, avec Astrid et Raphaël aussi, et sa saison 4 qui va bientôt débarquer. Est-ce que ça laisse du temps pour faire d'autres choses? Et en l'occurrence, moi qui n'ai pas vu la fin, là, de l'abîme, qu'on soit clair, est-ce que la fin est ouverte? Est-ce qu'on peut imaginer, en tout cas, une deuxième saison où c'est vraiment construit comme une mini-série où on aura toutes les réponses à la fin de cette première saison?
Moi, non, c'est une mini-série, c'est bouclé. Voilà, je vous le dis, je...
Eh ben, moi, j'ai hâte de découvrir la suite. On va parler du spectacle aussi. Gilles et Ben réunis avec un spectacle qui va tourner aussi dans notre région puisqu'on vous retrouvera tous les deux sur scène avec Benoît Joubert le 16 février à Royan, le 11 mars à Châtelaillon, le 1er avril à Pau, le 2 avril à Montauban, le 22 avril à Bordeaux et le 12 mai à La Reims dans les Pyrénées Atlantiques. Et il y a des dates partout en France. Si Gilles et Ben viennent passer près de chez vous, allez rire pendant 1 heure et demi, moi c'est ce que je ferai. En tout cas, quand vous allez passer du côté de Châtelet-Layon, ça c'est sûr.
Ouais. Et ben ouais, on s'éclate dans ce spectacle. Voilà, moi je fais le grand écart. C'est-à-dire, j'ai la chance de faire cette mini-série qui est complètement dramatique, qui est un polar où vraiment voilà, il arrive des choses affreuses. Puis de l'autre côté, je m'amuse, je ris, je fais rire les gens aussi. Les gens sont avec nous, on déconne et puis ça me fait du bien. Je fais mon sport aussi parce qu'on court pas mal sur scène. C'est de l'humour populaire dans le bon sens du terme et ça me fait vraiment du bien et ça fait du bien aux gens.
Oui, et puis t'es quelqu'un de partage. Je sais que tu m'avais confié des fois un peu t'ennuyer seul sur scène et le fait d'être deux avec avec Benoît, il y a ce ping-pong, ce rythme où évidemment c'est toujours beaucoup plus plaisant de s'amuser ensemble, c'est clair.
Exactement, on est des comédiens aussi, alors on n'est pas seulement humoristes et stand-uppers, on est aussi des comédiens et donc voilà, on campe des personnages, on se renvoie la balle, on part en impro, on oublie notre texte, c'est fabuleux.
Bon, on avait eu la chance de vous avoir tous les deux en octobre dernier. Écoute Gilles, tu nous quittes plus cette année et on est à tes côtés évidemment pour tous tes projets. On va t'embrasser très très fort, on te retrouve mercredi dans l'Abîme pour les deux premiers épisodes et en spectacle partout en France avec Benoît Joubert dans le spectacle Réunis. Merci à toi.
Merci Alain, merci infiniment, des bisous à tout le monde.
Ça va, t'as passé une bonne journée? T'es pas avec Lucie?
Alors, à la première question, je vais répondre oui, ça va. À la deuxième, oui, j'ai passé une bonne journée.
Et Lucie?
Et j'allais y venir. Non, Lucie n'est pas avec moi, elle est avec Clara, elle est en train de finir son portrait de Simone de Beauvoir. Les taillettes sont décidées, c'est ça?
Hein? Ils me laissent enfin l'exclusivité de la vente de leur domaine.
Super.
Je signe demain à 9h30. Alors?
Pourquoi tu mets pas la petite robe coquelicot que je t'ai offerte? Alain, c'est moi, je suis en réunion, qu'est-ce qui se passe avec Elsa?
Je comprends pas, Elsa est toujours pas là.
Vous avez appelé à la maison?
Oui, aussi. On avait une signature ce matin.
Ah, je sais que c'est important pour elle.
Généralement, elle part combien de temps?
1h30, 2h maximum.
Toujours le même parcours?
Oui, toujours. Dans la forêt au-dessus du lac, vers Saint-Saturnin.
Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu m'as rien dit pour maman?
Parce que je voulais pas t'inquiéter, je suis désolé, Lucie.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné consacré au film Pour la France, qui sort mercredi dans les salles. On a aujourd'hui le réalisateur Rachid Ami qui est avec nous. Bonjour Rachid.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Il sera aussi d'ailleurs à l'affiche le 22 mars dans C'est mon homme et également dans Pour la France, Karim Leclou, qui est notre invité. Bonjour Karim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une histoire vraie pour la France. On est un peu en immersion dans le monde militaire. Alors pourquoi cette histoire? Justement, racontez-nous un petit peu voilà, genèse de ce projet.
Cette histoire est inspirée de ma propre histoire familiale, de celle de mon frère qui est décédé par la faute de ses camarades en octobre 2012 à Saint-Cyr. Et donc j'avais envie, de manière assez presque, c'est plus qu'une envie, mais un besoin de raconter cette histoire pour offrir une continuité au combat de mon frère, qui était un combat pour changer une représentation qu'on fait des classes populaires et aussi de l'immigration, de l'islam et de l'intégration, parce qu'il était un exemple d'intégration républicaine. Il était aussi un exemple pourtant dans sa scolarité. Et donc j'avais envie de raconter une histoire qui était une odyssée familiale loin du fait divers, quoi, qui avait été déjà repris par la presse à plusieurs reprises. Et je voulais faire découvrir cette famille. Une famille qui, pour moi, représente cette majorité silencieuse de Français dont on parle très peu.
Alors, Karim, tu joues le rôle d'Ismaël, qui est le grand frère d'Aïssa, qui meurt à l'école de Saint-Cyr lors d'un, on va dire, d'un banal exercice, hein, pour le coup, et qui va devoir se battre pour connaître la vérité, qui va se heurter au non-dit, qui va se heurter justement des silences. Et il va tout faire, c'est même une enquête qui va le mener très très loin.
Ce qui est intéressant dans le film que me proposait Rachid et dans le film justement, c'est que je trouve que c'est pas un film d'enquête à proprement dit. Je trouve que c'est un film surtout sur une odyssée familiale et sur trois temps, dont une partie effectivement...
Une quête de vérité.
Une quête de vérité, mais en vrai c'est aussi la quête de découvrir un peu le passé de son frère, puisqu'il y a un moment un éloignement et qu'il y a une partie d'ailleurs qui est à Taïwan où il le retrouve et sur lequel il redécouvre son frère. Les deux apprennent à se redécouvrir. Et je trouvais surtout que ce qu'il y avait d'intéressant dans le film, c'est qu'il n'y avait pas un rapport binaire entre justement la famille Saïdi et donc le personnage d'Ismaël et l'armée. C'est pas un combat contre l'armée, puisque c'est un film justement qui interroge que ce soit l'armée, que ce soit cette famille, et que c'est un film qui pose des questions et qui est dans la nuance. Et je trouvais ça très intéressant aujourd'hui d'avoir un film dans la nuance et qui n'était pas justement un film d'enquête judiciaire ou des films qu'on a déjà vus. Et je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant d'avoir un film justement ample, qui est un drame familial, qui interroge vraiment beaucoup de notions universelles et qui n'est pas un film binaire d'un combat d'une famille contre l'armée.
Il y a plein de choses effectivement dans ce film. Est-ce qu'il y a un poids supplémentaire sur les épaules, Karim, quand on joue un personnage et quand on joue une histoire vraie.
Le poids, c'est celui de mon personnage. Je considère toujours que la fiction est de la fiction et Rachid ne m'a jamais proposé ce film autrement que de la fiction. Bien sûr, je savais qu'il s'agissait d'une histoire vraie et que c'était l'histoire de Rachid, mais on n'a parlé que d'un point de vue justement de personnage et de cinéma. Et mon boulot à moi, c'est d'essayer d'incarner et de rendre ce personnage entre guillemets vivant à l'écran. Et je trouve ça bien justement. Enfin, quand on est acteur, déjà d'essayer d'incarner, c'est déjà beaucoup pour moi de travail. Alors je prends mon travail à cœur et avec le plus de sérieux possible. Et après, d'avoir la chance en plus d'avoir un directeur d'acteur comme Rachid qui vous pousse dans vos retranchements, qui vous pousse à faire des choses que vous avez. Moi que j'avais pas encore faite, d'avoir une partie de jeu très resserrée parfois et d'être très intérieur et puis des fois d'être un peu plus large. Je trouvais qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à jouer dans ce personnage et que c'était un personnage qui se laissait pas aller, qui était dans le combat philosophique et que je trouvais ça vraiment, enfin je trouvais ça très beau à défendre. Mais je parlerai en tout cas pour répondre clairement à votre question. Avec Rachid, on a été que sur le terrain de la fiction et moi, en tant qu'acteur, je me sentais juste responsable d'avoir la chance de défendre un si beau scénario et un réalisateur et un directeur d'acteurs avec un propos que je trouvais important. Je trouvais que justement la beauté de son scénario et la beauté de son cinéma, c'est qu'il a su même dépasser, je trouve, son histoire personnelle, ce qui est très dur pour en faire un propos universel. Et j'ai été chanceux de tourner avec lui.
Le casting, Rachid, comment vous l'avez choisi? Justement, parce qu'on a la chance de revoir, moi j'aime beaucoup ce comédien, Shane Boumediene, que j'ai découvert dans Placé, justement, de Nassim Chekaoui. J'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver justement ce jeune comédien dans le rôle d'Aïssa.
Écoutez, c'est surtout j'ai eu la chance d'avoir des acteurs fantastiques qui sont venus m'accompagner sur ce film. Et moi j'avais découvert Shane dans le film d'Abdel Kechiche, qui était Mektoub, et c'est vrai que j'ai tout de suite... était frappé par sa singularité, par sa présence. Donc on s'est rencontrés et là, comme c'est pour moi, je fais pas passer de casting, je fais pas d'audition. C'est les rencontres qui déterminent un désir de travail. Et quand j'ai rencontré Shaïne, je savais que j'avais trouvé Aïssa et je lui avais proposé le rôle. Et là, j'ai découvert un acteur fantastique. À chaque fois, il allait au-delà de mes espérances et il était vachement habité. Il travaillait sans relâche. Il était déterminé à bien faire. C'est vrai que Shaïne Boumediene, c'est une des grandes promesses du cinéma français et qu'on a de la chance d'avoir un jeune comme ça aujourd'hui. C'est rare d'avoir un garçon si jeune avec une telle maturité, une telle finesse de jeu, une telle passion. C'est vraiment quelque chose de fantastique.
J'ai bien compris qu'en tant que réalisateur, il n'y a pas eu de pression de mise sur les comédiens par rapport à la vraie histoire. Ça, c'est chouette justement d'avoir pu les laisser jouer en se laissant diriger tout simplement sans justement leur mettre cette pression supplémentaire sur les épaules d'être fidèle peut-être à la vérité de tout ce qui a pu se passer dans votre vie, en tout cas à vous.
Moi, je pense qu'il fallait qu'ils soient tous fidèles à la vérité de leur personnage. Et on n'a parlé que de cinéma. On n'est jamais allé vraiment sur le terrain personnel. Ce qui m'intéressait, c'est vraiment de faire un film pour le spectateur. L'histoire personnelle, c'est ma sincérité, en fait. C'est une histoire sincère avant tout, et d'être dans la vérité des sentiments, la vérité des situations qu'on a écrites, qu'on a essayé de mettre en scène. C'est surtout ça qu'on avait comme quête. C'était une vérité de cinéma au jour le jour. Et franchement, que ce soit avec Karim Leclou, qu'on connaît tous depuis très longtemps, ou avec Lubna Azabal, avec Laurent Lafitte, avec il y a tellement un casting de fou, voilà, incroyable. Samir Ghesmi, Lies Salem, Laurent Capelluto, Alicia Ava, Lies Aguis, et surtout les deux petits-enfants qui sont dans le film, Naïl et Liam. J'ai juste eu
qui joue le rôle d'Aïssa et de, pour qu'on comprenne bien, justement, et d'Ismaël jeune.
Oui, voilà, c'est
enfant.
Enfant, il joue les rôles de Naïl et Eliam joue les rôles d'Ismaël et Aïssa enfant. Voilà, c'était fantastique. Moi, j'ai été émerveillé par leur professionnalisme. Donc il fallait que je sois professionnel. On parle de cinéma avant tout et c'est un acte de cinéma que je voulais faire pour être bien avec moi-même, parce que je suis cinéaste avant tout. J'essaye.
Pour la France, ça sort mercredi dans les salles. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après avec vous. On écoute.
Que ton courage soit notre loi, malgré le poids de vos bras.
Bonjour Madame Saïdi. Toutes mes condoléances.
Il faut que nous parlions des funérailles de votre fils.
Souhaitez-vous une cérémonie militaire?
Oui, c'est important pour lui.
Faites le nécessaire.
Il est évident que la mort d'Aïssa aurait pu être évitée. C'est un bahutage, une transmission de tradition qui a mal tourné. L'affaire va être qualifiée en homicide involontaire.
Aïssa vous a-t-il parlé de ses premières semaines à l'école militaire ?
Il était épuisé. Il me parlait de réveil en pleine nuit. Ma tête, je suis stupide et humiliant.
Aidez-moi !
Il y a dû y avoir un malentendu au départ. Le cimetière militaire concerne les soldats tombés en opération extérieure.
On sait tous que c'est à cause de votre bizutage de merde que mon frère est mort.
Pour la France, le film sort donc mercredi au cinéma. On va juste évoquer, avant de se quitter, peut-être les moments les plus marquants, vos souvenirs les plus marquants de ce tournage, de ce film. Karim ?
Je pense à un moment qui m'a beaucoup marqué, la chance d'avoir tourné à Taïwan en général, et particulièrement à Wulai. J'ai été très marqué par la... Même si je l'ai juste effleuré comme ça, tout d'un coup, de voir quelque chose de très différent dans ce pays, une culture aborigène qui m'a, je sais pas, qui m'a touché sans pour autant je l'ai juste aperçu, mais je sais pas, elle m'a marqué à un endroit sensoriel très fort. Et aussi, à un moment du film, j'ai eu la chance aussi de tourner dans un temple. J'avais jamais tourné dans un temple, j'avais jamais été dans un temple. J'ai ressenti quelque chose de très puissant à l'intérieur, je peux pas l'expliquer. J'ai été marqué par l'universalité de ce lieu et aussi la chance d'avoir fait ce film qui raconte pour moi l'idée que le combat peut être pour les classes populaires aussi philosophique et moral, et je trouvais ça beau qu'on parle aussi d'une majorité silencieuse dont on ne parle pas assez. Enfin, je trouvais que tout d'un coup, justement, qu'on soit pas dans les faits divers et qu'on soit dans quelque chose de l'ordre des personnages et de l'ordre de rôle qu'on voit pas assez comme quelque chose de précieux. Et j'ai eu la chance de jouer dans ce film, voilà. Je parlais de chance d'avoir rencontré Rachid et Shahin et Lubna et tout ce casting et de jouer avec eux.
Pour vous, Rachid ?
Pour moi, je pense que c'est très simple. C'était chaque jour les conversations, chaque jour de tournage, les conversations que j'avais avec les comédiens autour de leur personnage. C'était quelque chose de marquant parce que j'avais tellement de gens talentueux autour de moi que c'était un privilège, et comme jeune réalisateur, c'était un plaisir immense. Donc ça c'était quotidien et ça m'a tous les jours frappé, et j'étais gourmand, quoi. Chaque jour, je venais sur le plateau avec du désir, et je les remercie pour ça.
Allez voir cette histoire, voilà, c'est incroyable, ça s'appelle donc Pour la France, c'est mercredi dans les salles. Karim, je le disais, on aura l'occasion aussi de vous voir au cinéma le 22 mars prochain dans C'est mon homme avec Leïla Bekti. D'ailleurs, Guillaume Bureau, le réalisateur, viendra nous voir également pour nous parler de ce film où vous jouez le rôle d'un mari qui réapparaît, qui est censé être mort. Est-ce lui, est-ce pas lui? En tout cas, il a l'air d'être reconnu par plusieurs femmes, et ça va être là le dilemme. Et on en reparle très vite avec le réalisateur. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Merci pour l'accueil.
Merci.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Give this space now and do not lose your way. Innocent face has one side always hidden inside, so do not be afraid. You got to show your love, you got to fight, you got to keep in mind patience and time. You got to show your love, you got it right, you got to keep in mind it's gonna be alright. Lift your head up, take your time. Walk the world, look straight deep in the eye. Keep your head up, hold it high. Walk the world and say I'm gonna be all mine. Wild desires, far from home, flying high, yeah, you feel it in your bones. What is coming, it's way much better. What is gone, so for better check your funds. You got to show your love, you got to fight, you got to keep in mind patience and time. You got to show your love, you got it right, you got to keep in mind it's gonna be alright.
Lift your head up, take your time. Look the world up, straight to bend in the eye. Keep your head up, hold it high. Look the world and say, I'm gonna be all mine. Lift your head up, take your time. Look the world up, straight to bend in the eye.
Audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à Alibi.com 2, c'est mercredi, dans les salles. Augustin, Mehdi, Greg et Flo sont de retour pour notre plus grand plaisir, pour le meilleur et pour le rire. Et je peux vous dire que vous en allez en avoir pour votre argent, parce que vous allez beaucoup rire. Pendant 1h25, c'est mené tambour battant, comme d'habitude. J'ai une confiance inouïe, évidemment, cette équipe qui est là pour la 8e fois dans Chut, on écoute la télé. Philippe Lachaud, Julien Ruthier, Tarek Boudali sont là. Bonjour les garçons.
Bonjour.
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 Merci d'être là. Élodie Fontan va nous rejoindre aussi d'ici quelques minutes. Un vrai bonheur, ce film. Et ça fait du bien. C'est de ça qu'on a besoin en ce moment. Réellement, Philippe.
Ah bah, écoute, je sais pas si c'est pas à moi de dire si c'est un réel bonheur. Mais en tout cas, c'est vrai que on entend les gens rire, en tout cas. Et les gens nous disent être contents de retrouver nos personnages, retrouver cette société de mythos. Hein. C'est vrai que c'est une société qui invente des mensonges. Et d'ailleurs, faut peut-être se poser des questions. Ça veut dire qu'il y a peut-être beaucoup de mythos en France, en fait. Et nous, en tout cas, c'est un réel bonheur pour nous de retrouver le public et d'entendre les gens rire dans la salle.
Alors, il paraît que ça existe vraiment d'ailleurs, ce genre de société. On va y revenir dans un instant, mais on va repartir un petit peu en arrière. Dans le dernier film, t'as dû fermer avec tes compères cette société pour sauver ton couple en quelque sorte. Et en gros, c'est une histoire de mariage qui va remettre le feu aux poudres.
Absolument. En fait, c'est la suite logique un peu de ce couple, Greg et Flo, qui après être tombés amoureux, dans le numéro 2 vont se marier. Et qui dit mariage dit les belles familles présentes. Sauf que ça devient le problème, c'est que les parents de Greg sont pas présentables. Et là, il est face à un dilemme. Soit assumer ses parents, mais mettre en péril son mariage, soit faire un dernier alibi et aller louer les services de faux parents. Et il va prendre pas forcément la bonne décision.
Ouais, vous allez le voir. Alors, si les parents de Flo étaient joués dans le premier opus par Nathalie Baye et Didier Bourdon, là, encore une fois, un couple qui joue tes parents, Gérard Jugnot et Ariel Dombal. Mais comment vous arrivez à faire pour avoir un casting pareil, quoi? C'est dingue.
L'argent.
Alors ça peut être une des raisons. Mais je suis sûr que c'est aussi la bonne humeur, l'histoire d'amitié, la fidélité. Parce qu'on retrouve Georges Corafas, par exemple, aussi dans ce film que tu avais fait jouer dans Super-Héros Malgré Lui. On l'a vu beaucoup à la télé, Georges, dans les sagas d'été. Et c'est un vrai bonheur, je sais, aussi pour les fans de revoir quelqu'un comme Georges.
Non, mais je plaisante, évidemment, quand je dis l'argent. Gérard, on s'aime d'amour. C'est-à-dire que c'était le tout premier à nous avoir fait confiance sur babysitting. Il est venu, il était quasiment pas payé. Hein. Donc, en fait, on aime tourner avec les gens qu'on aime. Et Georges, par exemple, on avait tourné avec lui sur Super-Héros Malgré Lui. On adore Georges, il est gentil, il est drôle, il est bel homme. En plus, ma mère est amoureuse de lui. Donc, ah ouais, elle est folle de Georges Corafas, ma mère. Mes tantes aussi, hein. Ouais, je te jure. Mais tu as Georges Corafas dans ton film? J'ai dit, oui.
Mais ton père, il dit quoi?
Y a beaucoup de nanas qui kiffent aussi, donc il a pas grand chose à dire. Hein. Donc,
tu vois. En gros, t'as pris des parents comédiens à l'image des tiens, quoi, en quelque sorte.
Ouais, un petit peu inspiré, même. Alors, pas complètement, parce que ma mère dans le film est une ancienne icône de charme. Voilà, genre Emmanuel. Donc, ça pas tout à fait, quand même.
C'est pas tout à fait pareil, effectivement. Bon, Julien, ils ont un problème avec toi sur les toilettes. C'était en fait, ils ont un fantasme fou. C'est que maintenant, ils vont pas faire un film sans qu'on te voit sur des toilettes, en gros.
Ouais, c'est reparti pour un tour, ouais. Non, c'était... Je veux pas trop spoiler, mais en tout cas, c'était assez rigolo à tourner cette séquence. Voire des fois un peu gênant, parce que Sans trop en dire.
Et sans trop en dire, on va faire un jeu de mots. On va dire que tu restes collé aux toilettes pour un moment.
Voilà, exactement. Et du coup, à un moment, on a tourné cette scène et c'était juste en bas de chez moi. Et donc, comme j'ai une vie de quartier où je connais pas mal de gens, les maîtresses de mes enfants, etc., j'avais très peur de croiser des gens que je connais. Mais bon, ça s'est bien passé, on a bien rigolé. Et effectivement, j'ai ce petit attribut encore de nouveau dans ce film-là. Mais je pense qu'au prochain, on va arrêter.
Mais Julien co-écrit les films. Donc je pense que ça lui plaît. Parce que bon, on peut le dire, hein, c'est pas vraiment spoiler. En fait, à un moment, Julien se retrouve avec une cuvette. Enfin, il s'assoit sur une cuvette où a été placée de la colle. De la glu, et du coup il peut pas se décoller, et du coup bah il est obligé d'arracher la cuvette pour continuer son aventure, et voilà. Enfin, Julien doit avoir un petit côté je sais pas, sadomaso, je sais pas, enfin
c'est plus exhibe que sadomaso là.
Enfin, tu aimes te faire mal quand même, parce que c'était pas très agréable, parce que t'es vraiment collé à ses cuisses. C'était pas très agréable, je pense.
Il y en a plein qui ont des belles partitions. Rim Kérissi, Mehdi Sadoun, à mourir de rire. Je lui parlerai du chat quand on se verra. J'en dis pas plus pour ceux qui verront le film, ils comprendront, à mon avis. Alors Mehdi, quant à lui, toujours un peu dans la sagesse, en quelque sorte. C'est toujours le plus calme, celui qui va aller chercher des solutions toujours à droite, à gauche, pour essayer de sortir ses deux amis des situations improbables dans lesquelles ils se sont mis.
C'est ça, c'est le mec peut-être le plus qui tente, on va dire, d'être le plus réfléchi du groupe, mais des fois c'est pas forcément les bonnes idées, ou alors il aggrave un peu la situation. Mais voilà, c'est un plaisir de retrouver ce personnage qui est toujours un petit peu narco sur les bords.
C'est-à-dire qu'en gros, il s'endort, ça va lui jouer bien des tours. On va le voir aussi dans certaines situations du film. Moi, j'ai une question, franchement, Philippe. Est-ce que Didier Bourdon a été doublé dans certaines scènes?
Alors déjà, on a beaucoup de chance, voilà, que des gens comme Didier Bourdon, Nathalie Baye, avec les carrières complètement exceptionnelles qu'ils ont, bah, se prêtent au jeu en fait et nous fassent confiance à 100% et soient en total lâcher prise avec nous. Donc c'est vrai qu'il y a une scène qui va un petit peu loin avec Didier, à un moment, une scène de bagarre, alors qu'il sort de la douche avec Nathalie. Donc oui, on a fait appel à des petites doublures quelquefois, mais voilà, je dirais pas à quel moment précis. Je laisserai les gens imaginer quand c'est Didier ou quand c'est pas Didier.
Alors que moi, j'ai pas eu le droit à une doublure.
Non.
Aucune doublure.
Rien du tout. Moi, on m'a collé la cuvette sur le cul. Aucune. Et hop, dépêche-toi.
Aucune doublure.
Ouais. Bon, on va écouter la bande-annonce. Alibi.com 2, le retour. C'est donc mercredi au cinéma. On écoute la bande-annonce et on revient avec notre équipe de Joyeux Lurons. À tout de suite.
Ça vous dirait d'être mes témoins?
Non!
Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage? Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse.
Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part.
Ouais. En fait, ma belle-famille veut absolument que mes parents soient présents au mariage.
Ah merde!
C'est lui, pas moi le problème, c'est ton escroc de père!
Fiston!
C'est pas moi le problème, c'est ta psychopathe de mère!
Ah,
mais si t'as honte, on peut faire un alibi famille. On loue des faux parents comme on a fait pour le fils de Francis Lalanne. Hors de question, les alibis c'est terminé.
J'arrive pas à croire qu'on soit là.
Mais c'est impossible, on n'a jamais fait une mission aussi risquée.
Ça va se passer comme sur de la crème.
Oh. Alibi.com 2, le film de février à ne pas manquer dans les salles. Vous allez rire, c'est la promesse qu'on peut vous faire, parce que de toute façon on peut pas faire autrement. Je l'ai vu dans une salle de 600 et quelques personnes. On l'a revu à l'Alpe d'Huez une deuxième fois avec un grand plaisir. Et franchement, c'est un tas qui a des rires. Mais à un moment donné, moi je peux vous dire une chose, c'est que les rires sont tellement forts dans la salle qu'on n'entend même plus les dialogues. Tellement ça rigole. Ça, c'est une vraie récompense pour vous. Quand vous écrivez, quand vous tournez, c'est toujours un petit peu abstrait. Mais là, c'est concret maintenant, là. Julien.
Oui, tout à fait. non, c'est vrai qu'il y a pas mal de scènes qu'on a écrites où on s'est dit on va se marrer, mais le retour du public, il est fou. Et du coup, on s'attendait pas à certains moments de rire aussi intense. Et pour nous, effectivement, c'est vraiment la récompense. Là, de voir les gens se marrer, sortir du cinéma et nous dire « Ouais, bon, on a rien pensé à d'autre qu'à votre film et on s'est marré pendant une heure et demie », c'est vraiment le plus beau compliment, ouais.
Et c'est une grande fierté, parce que je me souviens, quand on était jeune, un film qui nous avait marqué, c'était Marie à tout prix. Et moi, ça m'avait marqué vraiment quand j'étais jeune, parce que c'était la première fois que j'entendais plus les dialogues, tellement les gens riaient dans la salle. Et je me suis dit, waouh, la force! Et si tu me dis que s'il s'est passé ça hier dans la salle, bah c'est une grande fierté parce que bah c'est pas simple à faire quand même. Réussir à avoir refait ça, franchement, c'est super. Enfin.
Et on est aussi très content d'un truc, c'est quand tu fais un 2, t'as toujours peur de la comparaison avec le premier. Le premier avait bien marché. En plus, on a eu des bons retours de la part du public. Et là, les gens sont contents aussi et nous disent ouais. Et certaines personnes aussi avaient cette crainte et on a pas mal de retours de gens qui nous disent bah en fait on s'est autant amusé que dans le premier. Il y a certaines scènes où ils nous ont dit bon on a encore plus rigolé que dans le premier. Du coup, ça c'est vraiment cool. Ouais.
Ça c'est spécifique beaucoup à vous aussi. Hein. C'est-à-dire que franchement faire des deux, non seulement vous les faites, ils sont encore plus forts des fois que les premiers et c'est très difficile de réussir des deux et vous les avez tous réussis. Ça c'est vraiment un tour de force que ça soit le babysitting. Moi j'attends un super héros. Malgré lui ou à Nicky Larson, évidemment, j'attends une suite. Tarek, il y a une basse fan sur la bande à Fifi qui est absolument incroyable aujourd'hui, qui vous suit. L'aventure a commencé il y a 8 ans. C'était en 2014. Est-ce que vous imaginez 8 ans plus tard avoir fait 8 films? Et l'aventure s'arrête pas là, puisque toi, t'es sur la suite de 30 jours max aussi, que tu vas terminer de tourner à la fin du mois. Mais c'est fou ce qui est en train de se passer là.
Déjà, on savait même pas si Babysitting 1 allait marcher. Donc, on arrivait même pas à se projeter 8 ans après. On se projetait même pas 2 mois après ou un an après. Donc, non, ce qui se passe, c'est assez dingue.
On va terminer par vos meilleurs moments juste avant d'accueillir Elodie. Philippe.
On en a déjà parlé. Moi, c'est retrouver Julien avec la cuvette collée au fesses en bas de chez lui. Avec sa famille qui était passée le voir, enfin, moi, j'ai eu un fou rire. Et aussi quand, parce qu'on a Gad Elmaleh qui fait une apparition dans le film.
C'est la version marocaine, hein, je crois, de Alibi, c'est Habibi. Voilà, vous allez voir, c'est très drôle.
Habibi.com au Maroc, c'est
beaucoup moins de moyens.
La filiale marocaine et qui nous a fait des impros où je pleurais de rire. Ouais, donc c'est peut-être ça aussi avec Gad Elmaleh.
Julien.
Nous, on avait une scène tous les deux dans un lit avec quelqu'un. Et c'était marrant à tourner parce que du coup, c'était cocasse pour nous deux. Et c'est marrant parce qu'on était tous un peu gênés finalement, mais on a bien rigolé.
Tarek, pour toi ?
Moi, c'était les fesses de Julien. Voilà.
collé à la cuvette.
Ouais, il se passe pas mal de choses avec. Et il y a pas mal de monde qui a pu observer ça. C'était assez rigolo.
Bon, vous allez rire, moi je vous le dis. On fait sauter les enfants en l'air. Il y a plein de choses qui se passent. Alors évidemment, hein, personne n'a été maltraité ou blessé sur le tournage. Ça, c'est une bonne chose. Ah, Julien, il a l'air de dire moyen. T'es resté les fesses rouges, toi.
Oui, voilà. Et Didier aussi, un peu quand même. Hein. Un peu maltraité, Didier Bourdon.
Ouais, mais ça va. Il encaisse.
Il est prêt pour un 3. Bon, vos projets immédiats. Tarek, tu repars en tournage pour terminer 3 jours max, ce coup-ci. Ce qui aura 10 fois moins de temps. Sur ce deuxième opus, et tu vas terminer, je crois, de le tourner au Mexique.
C'est ça. Je vais bientôt partir là pour finir le film là-bas. Et après, je dois finir toute la post-production pour une sortie en fin d'année.
Merci à tous les trois. Elodie va nous rejoindre dans un instant, va se refaire un petit extrait parce qu'on va pas bouder notre plaisir. Et Alibi.com 2, ça sort mercredi dans les salles. Merci à tous les trois.
Merci beaucoup.
Merci
beaucoup.
Profite de cette journée. Elle va être mémorable.
Je vous souhaite d'être un modèle de bonheur et de fidélité, comme l'est ta mère. Et c'est déjà bien.
Et on continue à parler de Alibi 2, c'est notre spécial aujourd'hui. Et chose promise, chose due, elle est là avec nous. Elle vient de nous rejoindre, Elodie Fontan. Bonjour Elodie.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être avec nous. Alors on peut dire que Flo envoie de toutes les couleurs encore dans ce nouvel opus. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va replanter un tout petit peu le décor. Une histoire de mariage va mettre le feu aux poudres alors que Greg avait raccroché un peu cette histoire d'Alibi.com pour sauver son couple avec Flo. Et évidemment, le feu aux poudres va être de nouveau mis quand il va falloir essayer de trouver de faux parents pour ce mariage puisqu'il n'assume pas les siens. Et vous allez voir que ça va nous emmener dans des histoires bien rocambolesques. T'as dû passer de bons moments encore sur ce tournage, même si on sait que la comédie, ça reste quelque chose de très pointu. Faut rester très concentré. C'est un gros travail.
Ouais, non, c'est vrai qu'on a été très gâtés. Déjà parce que je tourne encore avec mes copains, donc ça évidemment c'est génial. En plus, on a des nouveaux qui sont arrivés sur le film. Ariel Dombal, pour qui j'ai eu un gros coup de cœur, qui est extraordinaire dans le film. Et puis c'est vrai que on a toujours eu une bonne équipe technique, enfin une super équipe. Et là, celle-ci, elle était parfaite d'équipe. Donc j'étais très 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 nostalgique quand on a arrêté et c'est vrai qu'on a beaucoup rigolé. En plus on a tourné en pleine canicule, il faisait très 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 chaud. J'avais beaucoup de peine pour les figurants qui étaient en costume, tu sais, de mariage, les pauvres sous 40 degrés. Donc on a fait des bonnes batailles d'eau, on a commandé tu vois des petits pistolets à eau, donc on a bien rigolé sur son âge, mais en même temps effectivement comme tu le dis, c'est quand même hyper précis la comédie, donc on se doit de beaucoup rigoler en dehors des prises, évidemment qu'on bosse aussi énormément pour le tournage au moment où ça tourne quoi.
Tu as des scènes avec Gad Elmaleh, comment on fait pour garder son sérieux face à une situation comme ça, où t'es avec quatre copines, on va pas déflorer, mais t'es avec quatre copines quelque part, pour enterrer ta vie de jeune fille. Et donc Gad nous offre une prestation, puisque lui tient la version marocaine, qui s'appelle Habibi.com évidemment. Et donc il se retrouve effectivement avec les moyens du bord. Et là c'est pas triste, franchement, quand on vous voit toutes les quatre en train de regarder cet écran, c'est assez drôle. Mais vous, comment vous arrivez à garder votre calme toutes les quatre?
Eh ben écoute, la chance qu'on a, c'est que les premières prises qu'on a fait, c'était sur Gad, donc nous on était de dos. Nous, ça nous a permis de beaucoup rigoler parce qu'effectivement il part en roue libre, mais il est à mourir de rire. Mais il est tellement fort. Enfin, alors moi déjà j'ai une grande admiration parce que je suis très très mauvaise en impro et que là pour le coup Philippe lui a dit bon vas-y continue, enfin voilà fais ce que tu veux, en gros amuse-toi quoi. Et il arrive à partir en roue libre, en plus sur un texte qui est pas du tout, tu vois, simple, quoi, dans la télé, comme ça, sur les infos, etc. Et il te sort des news pendant 2 heures, et tout le plateau était en pleurs, mais on pleurait de rire, et il s'arrête pas, tant que tu coupes pas la caméra, il s'arrête pas, et il est extrêmement drôle. Non, on est super heureux de l'avoir dans le film. Il y a plein de guests comme ça qui sont fabuleux, et lui, ouais, c'est un des meilleurs, quoi.
On sent une générosité de la part de tous ceux qui participent au film, que ça soit Rin Guerici, Philippe Duquesne, qui est incroyable. Et il y en a tellement comme ça, Ariel Dombas, Gérard Jugnot, les petits nouveaux qui jouent les parents de Greg. Puis évidemment tes parents de cœur, Didier Bourdon, qui avoue franchement avoir un gros coup de cœur pour sa fille de fiction maintenant.
Mais moi je les aime très très fort. Non, c'est pour ça que maintenant on forme presque une famille, et retrouver toute l'équipe pour le 2, ça s'est fait hyper naturellement. Puis on a tourné dans des décors qu'on avait déjà connus, effectivement, sur le 1, la maison, etc. Donc en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de pause, tu sais, entre les deux, que ça s'est enchaîné hyper naturellement. Et c'est vrai que Didier Bourdon, moi, je l'aime énormément parce que c'est un acteur déjà extraordinaire. Et humainement, c'est une pépite. Et puis c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Alexandra Lamy qui fait un petit clin d'œil, Philippe Lelouch aussi que j'aime beaucoup, et il y en a plein qui sont venus, même parce que Gad il avait pas lu le scénario, il est venu vraiment en disant bah j'ai envie de participer et puis de venir tourner avec la bande et tout, donc c'est génial qu'il nous fasse tant confiance. Donc non on est très très chanceux.
Entre Greg et Flo, c'est un peu l'amour vache quand même. Ouais. Tu fais attention aux tondeuses maintenant?
Ouais, c'est ça, je fais attention. Ah ouais, ils m'ont gâté, hein. À chaque fois, ils me gâtent, hein. Entre la tondeuse, la danse, j'ai une espèce de danse au début, chorée. Bon, alors, heureusement, elle a été beaucoup raccourcie dans le film. Mais moi, en vrai, sur le tournage, j'ai fait quand même la chanson entière. Donc, autant te dire que, moment très gênant où t'arrives en disant, bonjour l'équipe, je vais faire mon striptease, allez, bienvenue. Donc, c'était très gênant, mais oui, vu que c'est à chaque fois très drôle, je peux que dire oui. Et il arrive effectivement encore plein de choses à flot. Mais ça nous a beaucoup fait rire.
Il y a une belle chorégraphie aussi avec Philippe sur J'irai où tu iras. Franchement, tous les deux.
Bah en fait, sur le 1, il y avait une choré dans la salle de bain qui avait beaucoup marqué, où ils dansaient tous les deux et qui avait été beaucoup reprise sur les réseaux sociaux, etc. Et on se disait que c'était dommage de pas refaire quelque chose qui leur ressemblait et que les gens, enfin que le public adorait. Donc on voulait pas reprendre la même chanson, on voulait retrouver quelque chose dans le même esprit. Donc on pense que voilà, du coup, ça fera plaisir de revoir pour les gens de revoir ce couple qui s'éclate tant.
Ouais, mais c'est ça qu'on ressent en tout cas, c'est que votre seul but, c'est vraiment de nous divertir, de nous faire rire, et ça fait du bien en ce moment. Et vous faites partie de ceux qui nous offrent des comédies avec un rythme effréné où il y a des rires toutes les 10-15 secondes. Et là, il y a un savoir-faire depuis maintenant 9 ans qui est là, et franchement, c'est génial à voir. Les projets pour toi, Elodie. Et déjà, première chose, s'il devait y avoir un Alibi 3, est-ce que tu aurais envie, en tout cas, de réendosser le costume de Flo?
Moi, je signe sans voir le scénario, hein, évidemment. Pour le 3, ce serait génial. Même, j'espère qu'il y aura un 3. Peut-être que si le public vient très nombreux, on a plein d'idées. Enfin, surtout les garçons ont plein d'idées pour le 3. Donc ce serait génial. Et pour les projets, écoute, on finit au mois de mars le tournage du film de Tarek au Mexique. Donc voilà.
3 jours max.
Exactement. Donc je fais partie, j'étais pas sur le 1, mais je les ai rejoints sur le 2. Donc voilà, fin de tournage effectivement au Mexique au mois de mars. Donc on est très contents.
Il y a une question en tout cas que les fans m'ont posée, qui m'ont envoyé, j'ai reçu des messages dans ce sens. On m'a dit si Elodie vient, pose-lui la question. On sait que tu t'y attends. On sait que c'est le final de Clem. Il va y avoir un grand double épisode qui va être tourné au printemps, je pense, pour une diffusion à la rentrée. Pour clore la série, ils vont essayer de rappeler évidemment tous les anciens. Est-ce que Alizée pourrait faire son retour dans ce final, en tout cas? Est-ce que toi t'en as envie?
Eh ben, elle pourrait, effectivement. C'est pas encore totalement acté, mais normalement, effectivement, on a commencé à en parler avec la prod. Ils m'ont envoyé des choses, donc je pense que ça pourrait se faire, en effet.
Ce sera un beau cadeau, en tout cas pour tous les fans de la série, pour clôturer cette belle aventure qui a duré maintenant plus de 12 ans. Et on a hâte de voir, en tout cas, ce grand final que va nous offrir TF1 et la prod. Merci beaucoup, en tout cas, Elodie, une nouvelle fois.
Merci beaucoup. Merci.
À très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, encore deux très beaux coups de cœur ciné avec Nicolas Giroud et Anne Charrier qui seront là pour L'Astronaute. Et puis on parlera également du très beau film de Steve Acheppo, son premier film, Le Marchand de Sable, avec Ophélie Beau et Moussa Mansali également, qui seront nos invités.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier. En Nouvelle-Aquitaine, des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les premiers cônes glaciers artisanaux français dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez vos boutiques Langélis à Nantes, Paris, Bordeaux, Royan, La Rochelle et La Cotinière. Succombez au plaisir d'un dessert Marie Morin avec Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente sur mariemorin.fr.